Femme novatrice.
Femme novatrice.
Femme novatrice avec Sophie Nanin.
Bonjour et bienvenue à Femme novatrice pour écouter et partager avec vous les échos de leur challenge. Aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir une grande artiste visuelle, Mia Dana. Bonjour Mia Dana.
Bonjour Sophie.
Enchantée de vous accueillir, parce que là vraiment, on sort complètement des codes, et c'est surtout, quand je dis cela, c'est par rapport à votre parcours. Alors c'est vous qui allez raconter bien évidemment votre vie, mais une artiste visuelle comme vous, qui part d'un bac scientifique et qui va, donc se dirige sur effectivement l'artiste visuel que vous êtes, et donc dans toute cette partie moi j'appelle ça artiste urbaine, mais vous allez m'expliquer tout ça, donc je vous laisse la parole.
Bonjour Sophie, merci de m'accueillir au sein de votre émission et merci de partager avec les auditeurs mon parcours.
Avec grand plaisir, vous démarquez tellement, au contraire, ils vont se retrouver en vous.
Ah, alors, je m'appelle Mia Dana, je suis artiste visuelle et je vis et travaille à Toulouse depuis plusieurs années déjà. Mon parcours, déjà, la base, c'est une passion, c'est-à-dire le dessin. Depuis ma plus tendre enfance, je dessine comme tous les enfants. Et en grandissant, le dessin ne m'a jamais quitté. Que ce soit au collège, après au lycée et dans mes études supérieures, j'étais toujours en train de crayonner, de dessiner. Je passais des heures dans ma chambre à faire des dessins, des croquis, à reproduire des portraits, des paysages, à l'aide de magazines. Je m'enfermais dans ma chambre et j'entassais dans mes tiroirs des carnets de croquis, de dessins, d'ailleurs que j'ai gardés.
C'était déjà beaucoup de talent mis en place ou c'était d'exercice?
Plutôt exercice. Plutôt reproduire ce que je voyais à travers un livre, une photo, ou ce que je voyais à la télé. Je dessinais beaucoup, je reproduisais les personnages de dessins animés, par exemple, ou des vedettes de musique, des chanteuses, des chanteurs.
Ah oui, donc il y avait déjà le côté artistique. Mais alors justement, comme il y avait ces dessins, est-ce qu'on peut dire éventuellement, puisque vous êtes dirigé sur un bac scientifique, vous êtes allé donc sur ce côté donc des maths pour aller vers les beaux-arts ensuite.
Oui.
Est-ce qu'on peut dire que cette tendance, ce virage, c'est parce que vous vous ennuyiez à l'époque dans cet univers?
Oui et non, parce que j'ai fait effectivement des études scientifiques, ça m'a plu. J'étais plus matheuse que littéraire. Donc j'ai fait un bac S j'ai pris cette voie parce qu'on disait à l'époque c'est la voie où il y a le plus de débouchés. Je n'avais vraiment aucune idée.
Oui, c'est une réalité.
À l'époque, je n'avais aucune idée de ce que je voulais faire. Je voulais me diriger vers des études d'ingénieur. Donc après mon bac S, j'ai fait une année de maths sup en école prépa. Et après cette année de maths sup, donc c'était des études assez denses, on travaillait énormément. Après cette année-là, j'ai préféré arrêter et plutôt partir vers la fac où du coup les matières c'était un peu plus souple. Et c'est à partir de ces années fac de maths, donc je faisais maths informatique, où là le dessin a toujours été présent. J'ai pris des cours de dessin, des cours privés de dessin, où j'ai vraiment appris le dessin académique. Et après, j'étais au club de dessin à la fac au Crous. Et de là, j'ai vu que vraiment je me plaisais dans ce domaine plus que dans les études scientifiques.
Est-ce qu'il y avait déjà un regard sur punaise, c'est un beau travail que tu fais? Il y avait déjà, vous interpelliez énormément les... quand vous aviez
j'avais ma prof de dessin de l'époque qui m'a beaucoup appris. Et j'ai rencontré aussi d'autres artistes. Et je me suis rendu compte que là, je me suis révélée. Je me suis éclatée parce que j'ai expérimenté. Donc, on avait au Crous un atelier d'art plastique. Il y avait plein de matériaux, Il y avait plein de médiums, donc j'ai fait un peu de sculpture, du volume, j'ai travaillé beaucoup la matière. Et j'ai vraiment démarré vraiment sérieusement cette pratique avec de la peinture plutôt abstraite. Et en parallèle, j'étais aussi dans des cours de dessin, donc plus académiques, donc dessin, apprendre la perspective, la notion des couleurs, enfin les règles de base pour construire et dessiner.
Donc c'est là où il y a eu un peu cette direction de graffer, je crois que c'est le terme.
Alors ça, c'est venu après, puisque du coup, là, c'est cette période-là, j'étais à Clermont-Ferrand, en Auvergne. Et du coup, c'est à cette période où j'ai fait ce choix, du coup, de faire ce virage, où j'ai lâché les études en maths, du coup, pour me consacrer aux arts plastiques. Et du coup, j'ai passé différents concours pour intégrer l'École des Beaux-Arts.
Ok, c'est donc ça c'est après, d'accord.
Ouais, okay. Concours national que j'ai passé à Clermont-Ferrand, à Lyon, à Toulouse, et j'étais prise à Toulouse.
D'accord.
C'est pour ça que je suis arrivée à Toulouse après.
Parce qu'au niveau, effectivement, là, avec toute la bande de copains, on va dire ça comme ça, très autodidacte, hein, au niveau des Beaux-Arts, il y a eu des lieux abandonnés. Alors, il y a eu les premiers graffitis, avec, on va dire, un espace un peu chaotique à ZDF,
oui.
Qui a été, on va dire, il y a eu pas mal de lettrages, il y a eu pas mal de choses, mais ça a été une tristesse pour un bien, parce que vous l'avez fait revivre, quelque part, cet espace. Donc là, si vous pouvez nous expliquer un peu ce qui s'est passé par rapport à ça, parce qu'il y a eu vraiment toute une communauté qui s'est mise en place.
Alors, mon arrivée à Toulouse pour intégrer l'École des Beaux-Arts, c'était en 2002-2003. Et donc, c'est là que j'ai découvert les cultures urbaines et le graffiti, qui existe déjà depuis un moment, puisque les débuts du graffiti, c'est aux États-Unis, fin des années 60. Un mouvement qui a explosé dans le monde entier. Et on va dire qu'à Toulouse, c'était aussi un haut lieu du graphe dans les années 80-90. Donc il y a des précurseurs dans le graffiti à Toulouse qui ont marqué l'histoire. Et je suis arrivée moi en 2003, donc le graffiti était déjà bien présent. Et pour l'histoire d'AZF, je suis arrivée après l'explosion d'AZF, c'était en 2001. Et du coup, moi j'ai découvert le graphe avec des potes des Beaux-Arts qui m'ont amené du coup dans cet espace chaotique des ruines de l'explosion d'AZF. Donc moi, j'ai fait mes premiers lettrages et mes premiers personnages là-bas. Ouais, c'était vraiment pour moi un terrain de jeu.
Je ne sais pas, de ce que j'ai pu voir par rapport à justement cette période-là, c'était presque une mémoire industrielle. Tout de même, c'était quelque chose de fort qui était soulevé. AZF certes, mais l'endroit, c'était quand même, tout cet endroit-là, c'était de le faire vivre et de passer un message, transmettre un peu, s'il y avait un désaccord, c'était aussi de s'exprimer via l'art, justement, non ?
Vraiment, après moi, à cette époque, c'était vraiment apprendre à utiliser le graffiti moderne, c'est l'utilisation de la bombe à aérosol et peindre sur les murs. Faire des lettrages, des personnages et vraiment prendre plaisir avec ses amis.
Et là, ce niveau-là, parce que maintenant, aujourd'hui, moi je parle de street art, c'est l'artiste effectivement visuel qui existe, mais ça a pris une évolution, c'est ça que j'aimerais avoir, c'est votre ressenti là-dessus. C'est qu'avant, on ne voulait pas entendre parler du tout des graffitis,
oui.
Même si ça existe effectivement encore. Et puis, quand même, le street art, enfin moi j'appelle ça comme cela, est reconnu. Il y a des festivals, il y a des événements qui sont mis en place, puis même les œuvres que vous réalisez à 10 mètres de hauteur, voilà. Est-ce que ça, vous pouvez expliquer comment ça s'opère ? Parce que c'est un véritable travail très technique, même si c'est artistique.
D'une passion qui était un passe-temps, aujourd'hui, c'est devenu un métier. Donc aujourd'hui, effectivement, je réponds plus à des projets de fresques murales, peinture murale. J'utilise toujours la bombe aérosol, mais aussi le pinceau, peinture acrylique, et je réponds à des commandes de fresques. Et donc, vous me parlez de dimensions, de hauteur. Donc, les murs, effectivement, on peut monter très haut et aussi peindre très longtemps. Pour vous donner un exemple, j'ai eu peint en région parisienne sur un mur de 300 mètres carrés. J'ai eu peint pendant un mois Ou du côté de Blagnac, j'ai aussi peint à 10 mètres de haut.
Alors ça m'amuse beaucoup, parce que chers auditeurs, où que vous soyez, à Auch, à Rodez ou à Cahors, Miadana a le vertige. Donc, comment vous faites? Parce que moi-même, je serais incapable, mais à 10 mètres de hauteur, et en plus à vous concentrer, même s'il vous faut du temps, hein, moi c'est long, mais de le faire étape par étape, mais comment vous arrivez à justement garder cette concentration malgré le vertige, et avoir quand même cette créativité?
Ben, c'est un bon challenge, parce qu'on
oui, pour moi,
si on apprend à dépasser ses peurs. Et j'avais tellement envie de peindre des grands murs et de monter. Ben, on est obligé de monter en haut, enfin de
sûr.
Monter
sûr.
Très haut
bien
pour peindre des grands murs.
Donc, c'est une nacelle.
Et du coup, voilà,
bien
nacelle, échafaudage ou échelle, ça dépend des projets. Et du coup, c'est dépasser ses peurs, mettre de côté ses angoisses. Mais des fois, bah, physiquement, bah, comme je vous dis, j'ai le cœur qui bat à la chamade quand je suis très haut. Du coup, bah, je fais des exercices de respiration et je ne regarde pas en bas et j'y vais.
Voilà. C'est quand même de l'audace, de l'audace créative.
Mais du coup, avec le temps, du coup, ça passe. Voilà, quand on passe au-delà de ça, bah, on se rend compte que ça passe un petit peu.
Ok, et oui. Ça passe dans le temps par expérience ou quand vous êtes sur cette œuvre que vous devez réaliser, les jours passants, ça y est, après vous prenez votre habitude,
ben,
ça y est, vos repères.
Et en ce qui me concerne, ça passe, voilà, j'ai un peu moins le vertige maintenant,
d'accord.
Ça va.
Et par rapport à donc, cet art visuel, comment ça s'opère? Parce que par rapport à cet ensemble, de, vous dites de 600, non, 350 mètres carrés, vous avez dit?
Non, le mur que j'ai pas au Bervilliers, c'est 300 mètres carrés.
Voilà, 300 mètres carrés, par exemple. Mais sur chaque œuvre que vous allez réaliser, quand on les voit faire ou quand on vous voit faire, comment vous arrivez à... Quels sont vos repères proportionnels par rapport au dessin?
Alors, il y a différentes...
Comment vous... techniques, oui, comment vous opérez là-dessus?
Il y a différentes techniques. Il y a la technique de la mise au carreau, où on représente... la maquette, le croquis que l'on réalise sur feuille, feuille A4 ou feuille A3, comme on veut. Et du coup, on réalise le dessin, donc mise au carreau. Donc là, vous voyez, on revient aux mathématiques, hein, finalement. Donc on fait un dessin à échelle 1/10, 1/100. Et après, ben, quand on est sur le mur, on se met des repères sur le mur. Donc on refait des carreaux à grande échelle. Et on reproduit le dessin sur la feuille en grand sur le mur, multiplie par 10 ou par 100 après, ou autre, les proportions. Et du coup, donc ça c'est la mise au carreau, mais aujourd'hui il y a des techniques modernes, donc grâce au téléphone portable.
Téléphone portable.
Oui, en fait maintenant, ce qui se fait beaucoup, c'est que maintenant on met carrément des symboles, on met des signes, on écrit des signes, du coup on le prend en photo. Et après, en fait, cette photo-là, on la met dans un logiciel qui met en transparence votre maquette.
C'est une appli que vous allez utiliser par rapport à ces données que vous allez transmettre. Et donc, après...
On prend en photo le mur avec nos signes, nos symboles. Après, donc, cette photo-là, on la met en transparence sur la maquette du coup, qu'on a sur notre téléphone. On la met en transparence et du coup, ben, on a la photo du mur avec la maquette qui est... du coup, positionné sur le mur. Donc, il y a deux images qui se superposent. Et du coup, il n'y a plus qu'à tracer. Voilà, ça, c'est la technique, on va dire, moderne de la mise au carreau.
Et ça, vous l'utilisez vous-même ou vous restez avec cette
Alors, quand je suis
technique...
sur des projets de commande et que j'ai peu de temps pour peindre, oui, parce que c'est clairement un gain de temps. Après, personnellement, je préfère peindre et écrire en freestyle et à main, en tracé direct. Du coup, à tracer directement... avec des grands gestes, voilà, sur des murs. Parce que j'aime prendre le temps de tracer, de recommencer, d'effacer, de voir si on a les bonnes proportions. Parce que ça aiguise le regard et ça nous apprend aussi à travailler à grande échelle et à peindre à grande échelle.
Alors, bien évidemment, Toulouse, c'est quand même votre pôle majeur des œuvres que vous pouvez réaliser, même si vous avez déjà fait d'autres villes en présentation, dans le sens Londres, New York, très bien. Mais quand vous parliez de commandes, qui vous commande? Est-ce que justement ce sont les collectivités, ce sont des entreprises, ça peut être, je ne sais pas, moi, dans un lieu qui se perd, justement, on parlait tout à l'heure du terrain donc, de la ZDF, mais on parlera effectivement de Myris aussi, mais qui vous commande véritablement ces projets? Est-ce que c'est des projets de taille Donc, comment ça s'opère à ce niveau-là?
Alors, comment ça s'opère? Déjà, faire ce métier, c'est un travail de longue haleine. Il faut être motivé, déterminé et se créer surtout un réseau. Se créer un réseau, des contacts, après bouche à oreille, se faire connaître aussi à travers des sites internet, sur des médias, réseaux. Et du coup, qui m'appelle, ce sont les villes, les entreprises, des particuliers, des associations.
Quels sont les particuliers? C'est qui, par exemple?
Il y a une personne qui me demande. Là, je suis en train de construire une piscine et du coup, sur le mur extérieur, pour embellir la piscine, je souhaiterais une décoration murale.
D'accord.
Donc, sur ces systèmes de commandes, effectivement, je réponds vraiment aux besoins et à la demande de la personne. Donc, comme moi, le dessin, c'est ma passion, je dessine et je peins ce que la personne souhaite.
Et le projet le plus fou que vous ayez fait, enfin, qui vous a demandé alors, pas forcément un long travail, mais dans le sens de la créativité, de pouvoir effectivement réaliser.
Le plus fou, c'est quand
chose.
J'ai... Oui, pardon.
Pas de souci, au contraire.
Le plus fou, c'était la toute première fois que je peignais un mur aussi gros, donc le mur de 300 mètres carrés à Aubervilliers. Donc, c'est vrai que c'est un travail d'équipe. Ça a été... Donc, j'ai répondu à un appel à projet. Mm-hmm. Donc, il y en a énormément, des appels à projet dans ce domaine-là. On monte un dossier... On construit une maquette, on budgétise aussi le chantier. Et puis après, il y a une sélection. Et après, ils choisissent l'artiste qui est choisi pour peindre ce mur. Et du coup, ce projet-là, je l'ai monté en collaboration avec l'association CISART. Mm-hmm. Et du coup, c'est comme si c'était un appel à projet national. J'étais vraiment... Donc, c'était fou que moi, de Toulouse, j'ai été sélectionnée pour aller peindre là-bas, à Aubervilliers. C'était vraiment super et fou. Pourquoi? Parce que j'ai peint pendant un mois non-stop. Donc aussi, on m'a beaucoup aidée. Des amis sont venus m'aider peindre à Paris.
Qui sont eux-mêmes peintres, qui sont dans cet univers-là ou c'est d'autres artistes?
Ce sont des copines.
Très bien. Vive les femmes, parfait.
Ouais.
Bonne solidarité.
Oui.
Mais comment vous faites justement? Parce que là, sur des projets comme ça, c'était en extérieur.
Oui.
Et comment vous gérez la météo, le truc?
Alors
très
voilà,
bête.
On a fait tout un rétro-planning où on a pris en compte les conditions climatiques et en cas de pluie, je ne peux pas peindre. On ne peint pas.
Ça se protège? Enfin, il y a des systèmes là-dessus?
Comme je peins à la bombe à aérosol, ça sèche assez
vite. Oui, ce n'est pas indélébile. Donc
ouais,
là-dessus,
ça sèche
pas de problème.
Vite, donc... ça va à ce niveau-là, mais quand il pleut, du coup, pareil, hein, les applications, je mettais Rain Today et je regarde s'il pleut et quand la pluie arrive, j'anticipe, je ne peins pas, j'attends que la pluie passe et après...
Parce que dans l'autre sens, pareil, s'il fait une chaleur vraiment, j'allais dire, importante, ça vous est déjà arrivé?
Oui,
parce que là, vous êtes obligé de respecter un planning. Donc,
et c'est ça aussi, de peindre... en plein été et en pleine canicule.
Oui,
je l'ai eu fait aussi, juillet-août. Où clairement, là, c'est l'inverse. Je peins très tôt le matin ou tard le soir. Parce qu'à midi, le soleil est au zénith et c'est le four. Quand j'ai eu des chantiers là, à Toulouse, canicule, c'est chaud. Donc, c'est un métier aussi où le corps est en action, où il faut être en forme physique, clairement, parce que... On peint dans des périodes où il fait très froid. On peint en extérieur où il fait très chaud. Et aussi, on monte, on descend des échelles, on porte du matériel.
Oui, non, c'est assez sportif.
Hein.
Oh, ouais, non, tout à fait.
Voilà, donc je fais ma séance de sport quand je peins.
Et à ce niveau-là, c'est sur 365 jours. Forcément, il y a plein de projets qui peuvent arriver. Il y a des projets qui peuvent malheureusement ne pas se concrétiser. Mais c'est en termes de temps. Vous y passez combien de temps par rapport à votre activité, justement? C'est intense.
C'est très intense parce que la partie extérieure de l'iceberg, c'est qu'on voit une peinture murale où je fais aussi des expositions. Il y a un vernissage, on voit les tableaux, il y a une expo. Mm-hmm. Mais ce que l'on ne voit pas, c'est tout le travail qu'il y a en amont, c'est-à-dire démarcher, trouver des projets... Quand on trouve un projet, faut établir un budget prévisionnel. mettre en place un rétro-planning, acheter le matériel, et après créer, avoir des idées, faire la maquette, trouver le visuel, répondre aussi à la demande de la personne qui souhaite avoir une déco.
C'est 50%, la limite de votre activité est basée sur ça, même plus que ça peut-être.
Et puis surtout faire plein de devis. Sur 10 devis, j'en ai deux qui sont validés. Donc c'est
Miadana a un compte Instagram pour ceux qui sont intéressés. En tout cas, je vous invite en tout cas à aller voir. Mais Instagram, Miadana, M-I-A-D-A-N-A. Donc si elles appellent
artiste.
À projet. Point artiste en plus, parfait. Donc par rapport à ça, de ce que vous me dites, là, parce que malheureusement, on va arriver vers la fin. Mais sur le côté quand même d'une partie importante sur votre métier. C'était MixArt, que je trouvais quand même effectivement bien en place. Mais est-ce que vous pouvez y aller un peu plus loin par rapport à votre métier, qu'on comprenne bien à quoi ça correspond et ce que vous apportez? Parce que par rapport à ce travail que vous réalisez, vous changez complètement le décor urbain, quoi. C'est quand même une belle révolution.
Alors, MixArt, qui est malheureusement fermé aujourd'hui, c'est un lieu, en fait, où il y avait beaucoup d'artistes, où on créait un collectif, il y avait plein de projets qui ont été mis en place. Et c'est vrai que j'ai eu beaucoup été à MixArt pour monter des projets, être en résidence, notamment des projets de performance, dont un projet qui s'appelle Avatar. C'est un projet scénique hybride qui mélangeait le live painting, la vidéo, l'interaction vidéo et le travail sonore. Donc ça, c'est ce que j'avais fait à MixArt. Et du coup, c'est un lieu, c'était un collectif, MixArt. Aujourd'hui, en tant qu'artiste aussi, il faut avoir des lieux de création, des lieux de travail. Donc, je voulais aussi dire qu'aujourd'hui, en ce moment, je fais partie d'un collectif qui s'appelle l'Aérochrome, où on est 11 artistes en résidence, où on a nos ateliers. Donc, c'est quoi l'Aérochrome, en fait? C'est une ancienne usine qui a été transformée en lieu de création et en lieu d'exposition. C'est situé à Blagnac. Je voulais saluer les collègues qui sont Maisy, Antistac, Xerou, Massa, Nico Cacao, Casper, Isa de Dirty Print, Spot,
vous m'avez sorti toute
Gutter,
votre liste,
Mika.
Parce que là, on arrive à la fin.
Voilà, je vais les saluer.
Mais c'est bien, parce que vous voyez, Miadana va vous plaire, vous écoutez et réécoutez cette émission. C'est que justement, elle ne parle pas que d'elle, vous voyez tout ce travail d'équipe, mais elle cite aussi d'autres personnes. Et ça, ça me va fort bien par rapport à ça. Là, sur le phrase de fin, vraiment, en tant qu'artiste visuel, vous diriez quoi? Parce que c'est quand même du beau challenge, du beau défi, du dépassement de soi, très humain. La phrase de fin aujourd'hui pour ceux qui nous écoutent dans cette époque bizarre.
Alors, dans cette époque bizarre, c'est pas facile, mais rester positif et vivre avec passion.
Ah bien, ce mot de fin. Impeccable. Écoutez, Miadana, super. Je suis ravie que vous soyez venue parce que votre art est reconnu. Alors qu'il a été vraiment mis dans l'ombre pendant des années. Donc, j'en suis ravie. Merci à vous, en tout cas.
Merci, Sophie.
Avec plaisir. À la semaine prochaine.